Salut Monsieur Martin.
Bonjour Monsieur Eric, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Et une fois de plus,
encore
on est chez...
Ouais. Je crois qu'il nous a séquestrés. Je pense qu'il nous a séquestrés parce qu'on est toujours chez lui.
On est pris en otage.
Ouais.
Toujours les mêmes.
Mais pour des choses quand même intéressantes et diversifiées.
Voilà.
Là, on a démarré l'émission avec trois motos. Quatre motos. Quatre motos, si tant est qu'il y en ait une, soit une moto.
Oui, si tant est, s'il y en a une, si c'est...
Donc là, on va vous raconter l'histoire des motos, l'histoire de chacune de ces motos, plus celles qu'on n'a pas fait péter parce que
Elles sont en restauration.
Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est une émission histoire.
Avec histoire, monsieur donc Didier de chez Calife, quand même, parce qu'on est toujours chez lui, mais voilà.
Bah oui, on boit le café en même temps.
On boit le café, on est bien reçu.
Ouais.
Et donc là,
ça dépend des
jours. Je confirme.
C'est-à-dire que quand même, il en est à rêver de toi la nuit.
Il paraît, avec sa femme.
Ah, mais devant un film.
Devant un film. Et le film, c'était...
Des vieux fourneaux.
Je dirais pas le titre.
Partie de chasse au soleil.
Blanche-Neige, j'ai laissé.
Ça restera entre nous, ça.
Oui. Reste entre nous.
Donc là, le but, c'est qu'on va vous raconter les motos. À vous, alors si vous avez envie de jouer du jeu, de nous donner le nom de la moto correspondant au son
que vous
a proposé en début d'émission.
Voilà. Et vous gagnerez quelque chose, on verra.
J'ai bien parlé de son et pas de bruit.
Oui,
pas de bruit,
de musique.
Ouais. De musicalité.
Donc
on donnera peut-être des indices, on verra.
Là, c'est quand même une collection qui appartient à Didier. C'est à peu près, elles sont presque toutes à toi.
En partie, non. Il y en a quelques-unes qui appartiennent à Denis de chez MDMECA, à Mugron.
D'accord. Qu'on avait été voir il y a quelques années.
Voilà.
Avec qui on avait fait une émission aussi sur
la belle petite Bentley, elle lui appartient pour l'instant. Et il va la vendre là. Elle va passer demain, mais elle va rester dans une famille proche, on va dire. Elle part jamais très loin.
Donc, puisque tu parles de celle-là, on va commencer avec celle-là.
Mm-hmm.
Donc Benelli 250 course.
Course, tout à fait.
Donc alors, quelle année?
Alors, je pense qu'elle doit être avant 80. J'aurais dit dans les 77, 78. Moto qui est donc pas homologuée, donc on ne peut pas connaître l'année de production. Elle n'a pas de carte grise. Et c'est un petit bicylindre, deux temps, refroidi par air, avec pour les spécialistes deux carbus de 32. C'est énorme.
Ouais.
Deux carbus de 32, ça correspond à ce qu'on met sur presque une 250 cross de l'époque. Monocylindre, là qu'il y en a deux. Donc, démarrage à la poussette.
Pas de kick,
pas de démarreur, pas de rien d'électronique. La pure et dure moto de course de côte.
Alors moi, j'ai vu qu'elle avait été faite surtout pour le Tourist Trophy.
Oui, elle peut être faite pour ça, oui.
Ouais.
Mais voilà, elle ne peut pas rouler sur la route, elle est destinée à faire que des courses. Voilà.
C'est des machines qui prennent combien, ça alors?
Une petite 2,5 comme ça, ça doit accrocher un petit 220, 230. Pour l'époque, c'était
énorme.
Ouais.
Et ça fait combien de chevaux? Moi, ça me semble... Ils disent 27 chevaux.
Ouais, je pense que celle-ci fait un petit peu plus qu'elle a été préparée par l'ancien mécanicien d'échappe qui s'appelait Rémi, décédé malheureusement aujourd'hui. Et c'est lui qui l'avait préparée à l'époque, donc elle est un petit peu tapée. Donc je pense qu'elle fait plus de 30 ou 35
ouais,
chevaux.
Oui, parce que pour sortir une telle vitesse avec 27 chevaux quand même...
Après, il n'y a pas de couple, hein, en bas, il ne se passe rien. Hein,
d'accord, il faut être lancé. Quoi.
Au moins 6-7 000 tours pour que ça commence à causer.
Ah. Et ça grimpe les côtes.
Ah ben ça grimpe tout, les côtes, ouais. Mais notamment les côtes, ouais.
Non, il faut être dans les tours tout le temps.
Ah tout le temps. Ah, si tu roules en mi-régime, bas régime, t'avances pas. Tu engorges.
Ouais.
C'est des moteurs qui sont faits pour tourner
32,
à plein
énorme,
régime.
Ouais.
32 et deux fois le 32, c'est énorme.
Ouais.
Énorme.
Ouais.
Ouais. T'as assez d'un réservoir.
Ouais, mais ça dure pas longtemps.
Parce qu'une course de côte, c'est pas très long.
Non, pas très bon, enfin ça dépend des courses de côte. Hein,
mais moi j'ai jamais roulé avec encore. Hein. Celle-ci, je l'ai vu que rouler, mais j'ai pas pratiqué.
Après, ça doit faire bizarre à 2,20 là-dessus.
Ouais, les suspensions, il y a des gros freins par contre. Les suspensions, c'est moyen, c'est d'époque.
D'accord.
Donc ça,
c'est une bécane. On connaît des pilotes qui ont roulé là-dessus. Enfin, il y a eu des grosses courses avec
machine-là. Non, elle n'a pas été très répandue.
Bah, il parlait moi, ce que j'ai vu, c'est qu'Autoriste Trophy, il y aurait Phil Reed qui aurait roulé sur ce type de machine,
ouais,
etc.
Peut-être,
quoi,
là, je ne peux pas confirmer. Ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est la première fois que j'en vois une. Et avant, elle appartenait à USD, qui est un garage automobile que j'ai connu il y a une vingtaine d'années. Et c'est eux qui l'avaient à l'époque. Et après, elle a été récupérée par Denis de chez MD Meca.
Mais c'est des petites séries, ces machines-là?
Ah oui, je pense que ça.
C'est vraiment de la moto de collection aujourd'hui.
Assez rare, ouais. Il y a plus rare, mais celle-ci, j'en ai jamais vu d'autres.
D'accord.
Ouais.
On mettra des photos.
En plus, elle est aux couleurs italiennes.
Quoi. Ah ben oui, Benelli.
Elle est blanche, rouge et verte.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'elle fait partie du lot des motos démarrées au début?
Ça sera à vous de deviner.
Ouais, à vous de deviner.
À l'oreille, le 32 peut-être. Pour les esthètes.
Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre que tu nous as aligné devant le magasin?
Alors après, dans l'ordre dans lequel elles sont alignées, après on a une...
Une Avenger.
Une Avenger 350. Alors celle-ci, elle est de 1968. Et c'était les premières motos avec lesquelles Kawa organisait la Coupe Kawa.
Exactement.
Tout le monde pense que la Coupe Kawa, elle a commencé avec les 400, 3 cylindres. Et ben non, elle a commencé avec la 350 Avenger. Il y avait deux bicylindres à l'époque. Il y avait la 250 Samurai et la 350 Avenger, qui sont des petits bicylindres deux temps aussi à air. Ça prenait...
Deux cylindres deux temps.
Ouais, deux cylindres deux temps, avec les admissions sur les côtés, les carbus intégrés dans le bas carter.
Ah oui.
Par un système rotatif de disques assez particulier.
Ouais,
ça prenait 170 à l'époque, c'était déjà pas mal.
Ouais.
Et freins quasi inexistants.
Comme chez Kawa au début.
Ouais, comme chez tout le monde. Hein.
Ouais, c'est vrai aussi. Ouais.
Et les gars, ils s'envoyaient en l'air à la Coupe Kawa avec ça. Ah, et après, on est passé aux 400, 3 cylindres. Voilà.
Coupe Kawa qui a démarré en 71, d'après ce que j'ai vu. Quoi. Et ça prenait 13,6 ou 400 mètres départ arrêté.
Ah ouais, t'es bien renseigné.
Ouais.
Et donc ça, c'est une moto qui
40 chevaux.
Ça,
c'est une moto qui m'appartient, que j'ai été achetée en Normandie. En faisant confiance au vendeur qui avait un certain âge et qui avait une très belle collection de motos. Il m'avait assuré que tout était refait. Je l'ai descendu du camion ici, j'ai fait 6,5 km, j'ai serré le moteur.
Ah.
Et quand je l'ai ouvert, j'ai vu que rien n'était fait. Il avait dû oublier.
Ah oui, oui.
Ouais.
Ou c'était peut-être une autre, il en avait peut-être plusieurs.
Ouais, on va dire ça.
Mais aujourd'hui, tu pourrais la rénover.
Ah oui, là, j'ai deux pistons à remettre dedans, retrouver deux coudes d'échappement qui sont partis, je pense, à la poubelle. Et puis ça tournera, hein, pas de problème.
Sinon, elle est d'origine.
Pardon, qui a participé, ça,
Alors celle-ci, je pense pas qu'elle ait fait de cours. Déjà, elle est immatriculée. Elle a une carte grise immatriculée, donc elle va rouler sur la route. Mais je l'aime particulièrement parce qu'elle a un petit côté rondouillard que j'aime beaucoup. Elle est petite. J'aime beaucoup cette machine. Et c'est une, à part la Benelli, c'est une des plus rares qui soit là. On en trouve très, très, très peu.
Et puis le bruit, je dis rien, mais
on ne sait pas.
Mais On a un indice bien,
qu'il y a quand même deux pistons dans la boîte.
Ouais.
Donc, au niveau du bruit, enfin, c'est ceux qui écoutent ce qu'on raconte.
Voilà. Et donc, 40 chevaux, ça.
Ouais, ouais, ça marchait bien. Ouais. C'était un peu plus coupleux de par la cylindrée. Ouais.
Démarrage à kick.
Ouais, bien sûr.
Et ils ont sorti une version scrambler un peu plus avec les pots en haut,
un peu relevés, les pots un des pneus un peu cramponnés, voilà, qui s'est pas trop
c'était, mais sinon c'était le même moteur.
C'était le même moteur. Hein, d'ailleurs la 2,5, la 3,5, l'Avenger et l'autre ont le même bas moteur. Il n'y a que les allégeages pistons qui changent. Hein.
Ils appelaient ça la Street Scrambler.
Déjà dans ces années-là.
En 60, donc 68.
Mais les noms étaient, moi je trouve, étaient évocateurs. Samouraï, Avenger, tu vois, c'était vraiment synonyme des motos de guerriers.
Parce que c'est japonais.
Un peu. C'est un peu japonais.
Mais après, pour un look de 68, on se rapproche quand même des bécanes des années 80. Quand même.
Oui.
Du 6,5 et tout ça, c'est vrai que... Parce qu'il y a 12 ans d'écart.
Après, je pense qu'au Japon, ils ont eu beaucoup de petites cylindrées que nous, on n'a pas eu. Il y en a plein des ronds comme ça quand tu cherches. Moi, qui regarde actuellement un petit peu les sites japonais, il y a eu beaucoup de petites motos qu'on n'a pas eu en Europe et qui ressemblent à ça.
Ils étaient limités par la cylindrée.
La cylindrée, oui, pendant longtemps.
Ils ne pouvaient pas conduire des 7,5 ou des 1000 comme nous ici.
Voilà. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup sorti de machines.
Beaucoup de production qu'on n'a pas eu.
Ils n'ont jamais voulu mettre de casque.
Par exemple. Ensuite, donc après celle-là, qu'est-ce que tu as d'autre ?
Celle-ci, c'était ma chouchoute du moment, mais. Elle va m'abandonner. C'est une moto que je vais vendre à mon ami Denis. Donc la vend avec grand plaisir parce qu'il va en prendre grand soin. C'est une 500 RDLC de 1984.
La faiseuse de veuve.
Non.
C'est ce
la Kawa. Ah non, 500 RDLC, non. C'était
non, pas c'est la Kawa, pardon, la 500.
La 500 RDLC, c'était pas la faiseuse de veuve. C'était on l'appelait une TZ de route à l'époque, comme la 350 RDLC, parce que c'était une réplique des motos de Grand Prix d'époque.
Oui.
Donc c'est un V4 deux temps.
Un V4 deux temps.
Ouais.
Quatre cylindres deux temps.
Très très beau moteur, complètement irrégulier, avec deux admissions par les bacs artères, deux admissions par les cylindres. C'est un magnifique moteur. C'était une concurrente de la 500 RG Gamma, qui était plus puissante de 10 chevaux. Et ça fait 85 chevaux. Mais elle marchait un peu moins fort, mais au niveau technologie, le moteur est beaucoup plus beau.
Combien de chevaux ?
85.
Et le poids ?
Ça pèse 178 par là.
C'est ça, 177 kilos.
Et
donc, faites pas longtemps, hein ?
Non, pas longtemps.
84 à 86.
Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu trois coloris. Il y a une blanche et rouge comme celle-ci. Il y a une rouge et noire. Et une jolie bleue liserée jaune, la Sonoto.
Moins de succès que le 3,5 alors.
Ah oui, il s'en est produit beaucoup plus cher. Parce que beaucoup plus cher. Et puis, à entretenir, plus compliqué. 4 carbus. Indépendant avec 4 commandes de starter séparées à régler, c'est un cauchemar. Mais c'est une très très belle machine, très très belle machine.
Quand ça tourne, ça pète.
Ouais. Après, tenue de route, c'est
difficile à piloter.
Difficile à piloter parce que c'est une roue de 16 devant. Donc interdiction formelle de lâcher le guidon, même pour pour se repeigner. Interdit. Ça part en guidonnage, bim bam boum, et là ça va par terre. Mais c'est exaltant à conduire.
Proche du GP, c'est vrai, c'était vraiment la moto qui ressemblait.
Beaucoup moins puissante, mais.
Comme, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant, je sais pas, une Desmond chez.
Oui, on va dire.
Chez Ducati, il y a la. Je sais plus comment elle s'appelle, la Panigale.
Panigale V4.
Voilà, V4 qui est proche d'une.
Qui peut se rapprocher de l'architecture d'une GP, Mais là, c'était quand même assez proche, hormis la puissance, puisque. C'était quand même beaucoup moins puissant que les motos de GP de l'époque. Alors qu'aujourd'hui, on s'approche quand même pas mal des 250 chevaux sur les machines, même si les GP font un peu plus, il y a beaucoup moins d'écart. Mais mécaniquement, c'est une très très belle machine. Moi, je suis ultra fan de cette moto.
Et tu sais s'il y en a eu beaucoup de sorties ?
J'ai pas les chiffres de ça. Il n'y en a pas eu énormément de vendus en France, parce qu'elle coûtait cher. Elles étaient compliquées à entretenir, à régler. Mais à rouler c'est sympa. Alors c'est pareil, c'est très creux en bas à 3-4 000 tours, il n'y a pas grand chose, mais dès que ça passe 6 000, là ça chante.
C'est le coup de pied au cul.
Ouais, c'est le coup de pied au cul, puis ça demande qu'à monter 10, 11, 12. C'est un régal. un peu gourmand en consommation.
Ouais.
Je suis allé dans le sud de l'Espagne avec, dans les années 80. J'ai emmené 7 bidons d'huile dans le sac à dos, parce que c'est un peu gourmand. Ouais.
Après, niveau confort sur la route, ça doit être...
Petite moto sportive, t'es sur l'avant, t'es un peu en appui sur les poignets.
Quand on était svelte et jeune, c'était ça, quoi.
Ouais, mais il y a longtemps, alors. Il y a 40 ans.
Peut-être on pourrait plus traverser l'Espagne.
Non, je pense pas. Pas en une seule fois.
Si tu l'avais fait en une seule fois.
Oh, bah ouais, j'avais rendez-vous avec des potes, donc fallait pas arriver en retard. T'arrivais en retard, tu payais l'apéro pendant tout le séjour.
Oui. Là, ça joue.
Oh, non, fallait pas. Surtout pas. Hein. Non, interdit.
Bon, peut-être est-elle.
Peut-être est-elle. Dans
est-ce dans le que film. C'est elle qu'on a entendu tourner? Je ne sais pas.
Ensuite.
Ah.
Alors.
La faiseuse de veuve.
La fameuse.
Je me suis trompé. Ah, c'est la deuxième série. La vraie faiseuse de veuve, c'était celle de 1969, qui avait donc un allumage avec un allumage rupteur Kondo. Alors celle-ci est équipée d'un allumage électronique, frein disque, un petit peu plus docile, on va dire. Mais voilà, alors là, par contre... Trois cylindres de temps, c'est la tuerie japonaise.
Ouais.
Avec la reine, évidemment, la 750H2, 72, la première, bleue.
Mais ça, c'était avant. La 500, ça a été avant.
La 500 est sortie en... Celle-ci, c'est une 73, c'est une H1D. La première série, c'est 69
H1A. Ouais.
Donc, l'épaule droit en bas, pas de remontée d'épaule, il était tout droit, pas de frein à disque.
Donc, pas de frein.
Voilà. Là, frein à disque, mais pas beaucoup de frein non plus. Alors, d'où son nom, la faiseuse de veuve. Ouais, surnommée la faiseuse de veuve. C'est sympa, quand tu allais acheter ça, tu disais à ta femme, tiens, je vais m'acheter une moto, elle s'appelle la faiseuse de veuve.
Tu signais un testament en même temps.
Ouais,
tu achetais la moto.
Ouais. T'allais chez le notaire avant.
Si tu voulais attraper les freins sur un virage, c'était trop tard. Quoi.
Mais c'était le mot attraper.
7500 tours, et là, ça part. À partir de 7500, ça monte jusqu'à combien au niveau des tours?
12-13. Hein, ça prend quand même, c'est bien. Hein. Là, une petite 500 comme ça, là, ça prend 180. Et celle-là, je roulais encore avec il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans. 10 ans.
Et moi, j'ai vu qu'elle avait fait deuxième au bol d'or.
Oui, elle a fait des courses d'endurance.
Ouais. Ouais.
Bah, faut dire qu'à l'époque, en concurrence, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des Anglaises avec des bicylindres qui faisaient une cinquantaine de chevaux. Quelques Allemandes, quelques BM qui tournaient pas mal, et puis les Japonais sont arrivés avec ça, les 3 cylindres, les 2 cylindres, après les gros 4 cylindres comme la 900Z, et là ils ont tout défoncé, la Honda 750, etc. Toutes ces motos, elles ont enterré toutes les productions anglaises, malheureusement, qui étaient très jolies, mais il leur manquait un peu de souffle.
C'est des motos à la bande To Be Wild, ça.
Ouais, Born to be Wild.
À la sauvage, quoi.
Oui, à la sauvage, comme toi, quoi. Ouais,
surtout je pense qu'on pourrait peut-être passer un petit morceau de musique.
Surtout à la Joe Martin.
À la Joe Martin.
Ah ouais, ça
c'est... Si on doit passer un morceau de musique, ce sera lequel?
Ah, là, on passe... celle que j'aime bien, c'est Doom and Gloom des Stones.
Ah. Répète. Doom and Gloom des Stones.
Ouais.
Yeah. ondes de Radio MDM.
Vas-y, chatte ça tout.
Bienvenue sur Radio MDM.
Radio MDM.
MDM.
Ah oui, MDM.
L'intro, elle est fantastique. Elle fait bien penser à Kawasaki, puisque Kawasaki est au Rolling Stone ce que Honda est aux Beatles. T'en rappelles ?
Oui.
Mais c'est vrai.
Oui, oui.
J'ai rien contre Honda, mais c'est vrai que c'est un petit peu,
oui, c'est un peu aseptisé. Plus,
Ceux qui sont méchants, ils disent un peu mou du genou. Ouais. Moi, je dis docile, tu vois, pour être
après,
politiquement
après,
correct.
Après, peut-être un peu plus fiable.
Oui.
Qui ça ?
Oui, Honda. Bien sûr. Honda. Oui, mais tout à fait.
Ouais,
tout
oui.
à fait.
Mais parce qu'un peu aseptisé.
Un peu ennuyeux.
Oui, un peu ennuyeux.
Alors que là, c'est... Là, c'est Keith Richards qui arrive avec sa gratte. Là.
Bon, donc, on se retrouve
ça,
après.
Parce que, quand même, on est dans les années 70-80, eh oui. quand même. Faut pas oublier.
Quoique les Rolling Stones sont actuels.
Ils sont encore là.
Voilà.
Ils sont encore là. Le dernier
une
album.
Spécial Rolling Stone avec les motos qui vont avec.
Ah ouais. Mais j'ai dit ça un jour à une convention Kawa. Ils m'ont dit, mais oui. Mais on peut pas l'exploiter, les royalties seraient monstrueuses. Parce qu'il faudrait payer et aux anciens Beatles et aux Rolling Stones.
Eh oui.
Ça serait trop cher.
Eh bien, on en est à 4 machines.
C'est pas mal déjà.
Écoutez toujours les bruits.
Et oui, pas. Toujours les bruits.
Ah, oui. Alors ensuite.
Ensuite, on est. Ça aussi, ça c'est quelque chose qui a un peu dérangé. Dérangé, dire, le code de la route.
Ça, je pense que vous l'avez entendu.
Kawasaki 750 Turbo, messieurs.
Première à faire un turbo.
Surtout la plus connue. Il y en a eu mal d'autres.
Mais la plus commercialisée.
C'est celle qui a eu le succès.
Quelle année ça ?
80. Alors la mienne, celle-ci, c'est une
87 dans les eaux là.
Ouais, moi c'est une 85. Celle-ci.
C'est
ouais.
ça la même forme que la GPZ.
C'est. Elle s'appelle GPZ 750 Turbo.
Turbo.
Ouais.
Turbo.
Ouais. Moteur suralimenté qui avait un turbo sur lequel on pouvait régler la pression. Et on arrivait à en sortir 130-140 chevaux. Avec un pneu, tu as vu derrière, c'est du 130. Donc quand ça se mettait en route et que le turbo enclenchait, tu avais intérêt à avoir un pneu en bon état et pas être à une sortie de virage, par exemple. Parce que là, l'arrière passait devant, il fallait faire du grass track, ce qui n'était pas mon cas du tout.
Et pareil, pas produit longtemps.
Pas produit longtemps. Bah pareil, moto un peu chère. Ouais. Technologiquement, il y avait de l'injection. Quand même à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de motos qui l'avaient, injection électronique, une moto qui était un peu coûteuse. Et on entretient aussi forcément les motos puissantes de cette époque.
Faut savoir 4 cylindres.
4 cylindres, 4 temps. Les Kawa de l'époque avaient une fâcheuse tendance vers 30 000 km à peu près à consommer un peu d'huile.
Mais l'huile n'était pas chère à l'époque.
Non, elle n'était pas chère, mais enfin, il en fallait quand même pas mal. On était presque souvent sur un litre 2 ou 1000.
Oui, il fallait toujours se promener avec son bidon d'huile en moto.
Voilà, parce que les moteurs étaient montés larges. Ouais. Ça cassait pas, enfin, ça cassait peu, mais les moteurs étaient montés larges. Donc, dès qu'il y avait les taux d'usure suffisants, ça consommait de l'huile.
Voilà. Et après, la mise en route du turbo n'était pas du tout progressive.
Ah non, c'était on-off. Ouais. Il y avait un régime, paf, il enclenchait.
À 6500 tours.
Ouais, et là, boum, l'hyperespace. Ça, c'est,
ça donne envie d'essayer tout ça quand même.
Mais toutes ces motos, elles sont un peu particulières à conduire. Il faut faire très attention. La 500 LC, il faut pas lâcher le guidon, même une main, il faut éviter. La petite 350, là, il faut être tout le temps dans les tours. La turbo, il faut faire gaffe quand tu ouvres. Et la dernière, la 1300, c'est pareil, c'est un peu un piège. Mais quel charme.
C'est ça. C'est le genre de truc, tu sais, t'as l'habitude de la machine, et tu dis, ah, ça y est, c'est bon, et c'est là que...
Et là
tout s'accélère. Parce que la machine a encore des trucs à donner que toi...
Mais après, c'est une bonne école quand t'as conduit sur des pièges comme ça, tu trouves tout facile, quoi.
Ouais.
Agréable, facile, tu t'occupes pas du freinage aujourd'hui, avec l'ABS, les assistances électroniques, c'est merveilleux, ça pardonne beaucoup d'erreurs.
Et on a entendu chanter donc ce 1300Z 6 cylindres en ligne avec...
Tu crois qu'il était dans les...
C'est un vrai indice avec un pot...
Avec un pot... Et quelle marque ? Trouvez la marque du pot.
Trouvez la marque du pot.
Éventuellement, c'est bien facile. La 1300Z qu'on a entendu.
Moi, je crois qu'elle fait partie des sons.
Elle est tellement reconnaissable.
Donc ça, c'est le dernier modèle que tu veux nous
dernier
présenter.
Dernier modèle, voilà, que j'avais ici à l'état de, on va dire, d'épave. Vraiment pas belle moto, et là je l'ai vendue avec grand plaisir, toujours pareil, à mon ami Denis MD Meca, tourneur fraiseur de génie, d'une gentillesse extrême, super bosseur, et il en a fait un bijou. Si vous avez l'occasion de voir la photo, il a fait un super travail. Il y a aussi le peintre Johan de chez Renault, Grenade-sur-Adour, qui a fait un travail merveilleux. Il s'est tapé tous les autocollants à recoller dessus parce qu'ils sont arrivés sur une planche. Il a fallu tout découper, tout remettre en ligne. Un travail de fou, quoi. Et une belle réussite.
Une belle machine.
Quelle année ?
85, celles-ci aussi. Elles sont assez proches, hein, quand même. Hein,
par ça, les vieilles de temps. Ça, c'est sur des machines de voyage, quand même. Là.
Ouais, ouais.
Là, on est sur ça, la grosse cylindrée.
Ça, c'était très lourde. Ouais. Surnommée le camion. Alors, c'est une moto qui pouvait être adorée ou détestée. Sa concurrente, c'était la 1000 CBX Honda, puisque Honda, c'était aussi une 6 cylindres qui était très, très jolie. Plus jolie, ouais, d'ailleurs. Ouais. Avec des formes très arrondies. Ouais. Moteur à air. Ouais. Là, c'est un moteur liquide, donc très carré, très cubique. Ouais. Un phare énorme, un bloc compteur énorme, des clignotants énormes. Tout est surdimensionné. Mais là-dessus, on est sur un vaisseau spatial, quoi.
Ouais. Et vous étiez souvent équipé d'un gros carénage, comme on veut, un
King.
King.
Ouais, ouais. Ça, c'était une option, ouais, qu'un garagiste faisait. Ouais. King Motorcycle, ouais, ça s'appelait. Et il équipait les motos avec un énorme carénage, avec King, un double phare. Ouais. Alors là, c'était ça faisait même carrément tente de camping.
Ah, ouais, ça faisait camion. Ouais, camion.
Ça lui allait bien.
Ouais,
ça l'alourdissait un peu plus. Ouais. Mais alors, le bruit de cette machine, il est extraordinaire. Ouais. Je dis toujours, moi, quand je démarre cette moto, j'ai des frissons physiques.
Moi, j'ai perso adoré le ralenti.
Ah, le ralenti,
Oui, mais c'est parce que tu as l'habitude de rouler à cette vitesse. Toi. C'est pour ça.
J'adore le ralenti.
Ah, ça chambre. Ça chambre terrible.
Ouais, ben, j'espère qu'on vous a donné le goût. Hein, parce que là,
et
quand même,
pour l'époque, sur des ancêtres. Et injection électronique, ça, c'est un modèle carburateur, mais il y avait l'injection électronique, cardan, et ils avaient même sur une autre moto, l'ABS Kawasaki, était extrêmement en avance à l'époque, avant tout le monde.
Ouais, mais j'ai cette fameuse Z là qu'il faudrait que je fasse réparer, du moins celle de mon pote Francis. Là,
oui, à l'injection. Et est-ce qu'elle avait l'ABS ici?
Non, elle n'avait pas l'ABS.
Parce qu'il y a eu des GPZ 1200 avec l'ABS.
Déjà dans ces années-là.
Ouais. Ah ouais, ils étaient vraiment très très en avance. Quoi. Très
bon. Bon, mais si vous voulez voir ces machines déjà en photo.
Oui.
Ah ouais, il en manque une, mais alors, on se dépêche, je suis désolé.
Ouais.
Alors la dernière, c'est...
Ah, ça, j'y connais rien, c'est de la mominette.
Ah la non, mominette. Celle-là, non, on la présente pas, celle-là.
Bah si, elle fait partie du son ou pas?
C'est une concurrente.
Non, bon, je pense pas. Non.
La concurrente des Peugeot.
Ouh,
qui est vilain.
Ah, un modèle 881. Ah, celle-là, vous la voyez tourner.
On dirait une Ducati 881. Oh.
Eh ben merci, et tout ça c'est donc tu collection que tu veux?
Non, j'en ai quelques-unes à moi, mais dont j'ai vendu la 500 LC, voilà, la 1300 Z.
Il y a un modèle que tu aurais envie d'acheter que tu n'as pas?
Ouais, une 750 H2.
Ah.
Que j'ai eu, mais que j'ai plus.
Et que tu n'as plus. Ouais, voilà. Ouais,
celle-là, elle est...
Donc, peut-être un autre jour, une autre fois.
Vu les prix maintenant, j'y crois pas trop. Crois pas. Ça frise les 20, 22, 23, 25. C'est démesuré.
Tu sais quelle est la moto la plus vendue en 2023?
Ah, bah c'est une BM, certainement.
Ouais, 1250 GS à 26 000 euros. Ouais. 6 500 véhicules vendus en France. Donc il y a des gens qui ont de l'argent.
Restons dans l'histoire.
Bon.
Merci Didier.
Merci.
Le mois prochain, on fera une émission avec Didier. Et le mois d'après,
avec Didier.
Et voilà.
Et puis après, avec Alain.
Et ça va devenir cher. Hein.
Allez, ciao.
Allez, ciao à tous.
Salut. And whatever comes up.